Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Cinécure qui, je l'espère, vous plaira. Tous les premiers mercredis du mois, je vais partager avec vous mes coups de cœur cinéma, sans limite de genre ni d'époque. On parlera de l'âge d'or d'Hollywood ou de polar hongkongais, de blockbuster ou de drame intimiste. La seule contrainte, ces films doivent être disponibles en VOD ou SVOD. Ce mois-ci, on va parler aristocratie sicilienne, polar à la française, ballet en technicolor et espionnage kitsch. C'est parti! Le Guépard de Luchino Visconti, durée 3h06. Un vieil aristocrate sicilien assiste à l'unification de l'Italie par Garibaldi et par là même à la disparition de la caste qu'il a fréquentée toute sa vie. Avant sa disparition, il tente d'organiser du mieux qu'il peut l'avenir de son neveu, lequel tombe amoureux de la fille d'un parvenu notoire. À travers cette histoire, c'est à la modernisation de toute l'Italie et donc de l'Europe que l'on assiste. La première fois que j'ai vu Le Guépard, je n'ai pas été particulièrement bouleversé ou touché par le film, j'en ai même été un peu déçu, parce que je pense que j'avais lu le livre peu de temps auparavant et j'en attendais trop. Je m'étais même fait la réflexion pendant la lecture, comment est-ce que quelqu'un peut adapter ça en film, puisque le bouquin consiste en des monologues intérieurs, des soliloques du prince Salina, le personnage principal, sur la disparition de l'aristocratie, le changement de génération, l'arrivée de la jeunesse, l'Europe, enfin toutes ces choses-là. C'est 80% de ça, et je m'étais dit, là ça va être catastrophique à mettre en scène, ça va être très très chiant quoi. Et ça a un peu été ma première impression, d'autant qu'ils n'ont absolument pas adapté ces dialogues, ces monologues intérieurs, ils n'en ont pas fait des dialogues. Et au final, le film a fait sa place, je l'ai digéré, et plus tard j'ai pensé en fait que c'était la meilleure chose et probablement la meilleure décision à prendre de la part de Visconti et des scénaristes, que de ne pas adapter ça et de faire du film une œuvre à part entière et non pas une œuvre basée sur un bouquin. Et là, c'est exactement ce que c'est. On a un film qui vit à part entière, qui vient enrichir le livre, mais qui n'est pas vraiment une adaptation du livre, qui est une adaptation de l'état d'esprit du livre, mais pas du livre mot à mot, ce qui, selon moi, est la chose la plus intelligente à faire dans ce cas-là. C'est le 7e long métrage de Luchino Visconti, qui était lui-même aristocrate, en tout cas issu d'une famille aristocrate milanaise et non pas sicilienne. Donc je pense que quelque part, Visconti parle de quelque chose qu'il a dû entendre quand étant enfant, puisque l'unification de l'Italie n'était pas si vieille en 1963, et elle ne l'est d'ailleurs toujours pas. C'est un film qui a été très dur à mettre en place, 15 mois de pré-production. Visconti avait du mal à trouver les financements, et au final, il s'est tourné vers le studio américain, la Fox, pour la distribution aussi. Et la Fox lui a dit très bien, si nous on finance, mais dans ce cas-là, vous devez choisir une star américaine pour le premier rôle. Et Visconti ne voulait pas du tout d'une star américaine. Lui, il voulait Nikolai Tcherkassov, un acteur soviétique à l'époque, qui a refusé pour des raisons que je ne connais pas. Puis il s'était rabattu sur Laurence Olivier, un acteur britannique qui a notamment fait Hamlet, tout ça, et qui ne pouvait pas non plus, il était trop occupé. Donc en définitive, le studio lui a laissé le choix. Ça devait être Anthony Quinn, Spencer Tracy ou Gregory Peck, ou alors Burt Lancaster. Et puis Visconti a vu Jugement à Nuremberg et il a choisi Lancaster, mais il le détestait. Il pensait que c'était une sorte de cow-boy qui faisait des westerns et qui n'avait aucune connaissance de ce monde-là. Et au final, sur le tournage, il y a eu beaucoup d'accrochages entre Burt Lancaster et Luchino Visconti. Et Lancaster a fini par l'emporter quand il a expliqué à Visconti qu'il avait d'abord lu le bouquin et puis que lui avait en tout cas essayé de gagner sa place auprès du studio américain parce qu'il voulait vraiment faire ce film. Et le respect s'est un peu mis en place à ce moment-là. Et au final, Visconti et Lancaster se sont très bien entendus. D'ailleurs, Lancaster a fini par jouer dans un autre film de Visconti plus tard.
Papa! Papa! Ton calogero non sta salendo le scale! È in frac! In frac!
5 mois de tournage, donc avec quelques engueulades, comme on a pu le voir, avec un casting donc international, puisque nous, en tout cas pour le côté de la France, on retrouve Delon, Romy Schneider, Serge Reggiani, ce qui fait d'ailleurs le charme de ces films-là, puisque chaque acteur jouait dans sa langue. Delon jouait en français, Cardinal jouait en français aussi, tout a été doublé sauf son rire d'ailleurs. Et puis Bird Lancaster joue en anglais. Et donc, comme je viens de le dire, ensuite on post-synchronisait tout en italien, qui est la langue originale du film, en tout cas du script. Et c'est comme ça qu'on peut voir le film aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vous conseille de le voir. Ne le voyez pas en français, hein, voyez-le si vous pouvez, voyez-le en italien. Je trouve que c'est y a quelque chose de vraiment spécifique à ces années-là où on voit bien que c'est pas la langue des acteurs. On a cherché quelqu'un pour les doubler. C'est le cas déjà, on peut le voir dans Le Bon, la Brute et le Truand, notamment pas mal de films de Léoné d'ailleurs, où les acteurs, certains acteurs italiens ne parlent pas du tout anglais. Donc on a Clint Eastwood qui parle anglais, Eli Wallach qui parle anglais, mais on a d'autres acteurs qui sont là que Léoné connaît, qui sont des Italiens, qui fait jouer parce qu'il les aime, parce qu'il les connaît, mais qui parle en italien. Et ça se voit à l'écran. Ben là, c'est un peu la même chose. Et ça fait rigoler d'ailleurs d'imaginer Burt Lancaster parlant italien. On voit bien que il n'est pas italien, quoi. Pour vous donner une idée de la grandeur du film, c'est Nino Rota donc, qui a fait la musique du Parrain, mais qui a aussi fait la musique de beaucoup de films de Fellini, notamment La Dolce Vita et 8,5. Cette année-là, il avait fait 8,5, et quand il a eu fini de faire 8,5, il est venu travailler sur Le Guépard. Et sur Le Guépard, en fait, il a ressorti une vieille symphonie, comme ça, comme nous on ressort un vieux bouquin, ben lui il ressort une symphonie que Visconti a utilisée pour marquer le passage du temps, la révolution, l'unification, etc., etc. Et puis, petite anecdote que moi j'adore, le monteur Mario Serandrei avait acheté une commode dans une brocante, et dans la commode, dans un des tiroirs, il avait retrouvé une partition de Giuseppe Verdi d'une valse, une partition inconnue d'une valse, et Nino Rota l'a inclus dans ses créations originales, et cette valse se retrouve notamment lors de la scène du bal, qui est la scène finale du film, qui prend un temps infini, comme dans le livre d'ailleurs, qui est une des plus belles scènes du cinéma mondial. Voilà, malheureusement c'est un film qui a fait un énorme bide à sa sortie, puisque notamment il avait été filmé en Technicolor et qu'aux États-Unis ce procédé n'a pas été respecté, donc on ne l'a pas imprimé pour qu'il soit montré en Technicolor, mais on l'a imprimé dans un processus qui s'appelle le Deluxe Color, qui est un processus qui est de bien moindre qualité. Heureusement il a été réimprimé dans les années 80. Aujourd'hui les versions qu'on trouve, moi je vous conseille de chercher une version restaurée si vous devez l'acheter en Blu-ray ou en DVD. Je pense, j'espère que sur Prime c'est la version Technicolor originale que vous pouvez retrouver. En tout cas c'est une version de 3h06 qui est la version qu'aurait voulu Visconti. Visconti au début avait fait une version un poil plus longue que ça, qui avait été coupée par le studio américain qui lui avait demandé de réduire la longueur de 1 heure. Voilà, cette même année 63 sont sortis Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, Les Tontons Flingueurs de George Lautner et Les Oiseaux de Hitchcock. Le film est disponible sur Prime Video. Si vous ne connaissez pas bien encore Prime Video, je vous conseille d'aller vite le regarder, parce que les films ont malheureusement tendance à rapidement disparaître de la plateforme. Donc il faut les voir tant qu'ils sont là. Le Magnifique de Philippe de Broca, durée 1h35. François Merlin, un écrivain de romans d'espionnage fauché, a 2 jours pour rendre son dernier manuscrit à son éditeur. Il s'agit d'une nouvelle aventure de Bob Sinclair, un personnage récurrent dans lequel Merlin a mis beaucoup de lui-même. Y apparaissent sa voisine Christine, une anglaise thésarde en sociologie dont il est amoureux, son électricien, son plombier, qui refuse à tour de rôle de terminer sa salle de bain, son éditeur, un patron véreux, qui lui refuse une avance et a des vues sur Christine, et bien sûr Merlin lui-même dans le rôle titre de Sinclair. Mais alors que Christine se prend de passion pour Sinclair et souhaite écrire une thèse sur lui, Merlin décide d'en finir avec son héros, non sans lui faire vivre une dernière aventure. Le Magnifique, c'est un film que j'ai découvert en DVD il y a quelques années. Je l'ai vu, je l'ai aimé, et puis je l'ai posé sur mon étagère et j'y ai plus repensé en particulier. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu L'Homme de Rio, qui est sorti en 64, qui est aussi un film de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo. Et j'ai repensé au Magnifique parce qu'il y a déjà dans L'Homme de Rio un certain nombre d'éléments comiques qu'on retrouvera dans Le Magnifique, mais qui sont vraiment poussés à leur paroxysme. C'est comme si Belmondo montait le volume à fond pour Le Magnifique. Et je l'ai revu pour vous en parler. Je le trouve incroyablement moderne en termes de comédie, dans le sens où c'est un film qui sort en 73, donc 9 ans après L'Homme de Rio. Et à beaucoup d'égards, c'est un film qui a une importance majeure, je pense, dans le cinéma français et aussi, bien entendu, pour la carrière de Philippe de Rocca et surtout pour la carrière de Belmondo. Dans le cinéma français, parce qu'on retrouve des choses qu'on va retrouver beaucoup plus tard dans des comédies type La Cité de la Peur ou même OSS 117. Et en fait, beaucoup de ces éléments qu'on retrouve dans ces deux films que je viens de citer, OSS 117, c'est deux films en tout, donc dans ces trois films, sont déjà présents dans Le Magnifique, puisqu'il s'agit presque d'une espèce de parodie, quoi, une sorte de beaucoup de fois, on rentre et on sort du film, il y a un côté extrêmement méta, qu'on retrouvera beaucoup plus tard dans des comédies, mais même à l'international. D'ailleurs, le film sort en 73, Sacré Graal des Monty Python sort en 75. Alors le Flying Circus est déjà sorti, puisqu'il est sorti en 70, donc il y a effectivement une émulation, je dirais, mais ça m'a beaucoup surpris de penser que nous, Français, on était capables à cette époque-là de créer des comédies qui allaient pouvoir rivaliser en drôlerie avec des choses comme les Monty Python qui sont toujours citées. On ne cite jamais ou très rarement Le Magnifique. Peu de gens citent Le Magnifique comme une référence comique, alors que c'en est une. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus.
Nous avons trouvé un interprète albanais, mais il ne parle que le roumain. Alors il nous a fallu trouver un roumain, mais il ne parle que le serbe. Le serbe ne parle que le russe que le tchèque. Heureusement, moi, je parle tchèque.
On va perdre un temps fou.
Yes.
Allons-y, les péchants.
Sojika, Stan Gavarit.
Stan Gavarit, qu'est-ce qu'on est?
Chefoni.
I am rende i plavo so.
Son gavrenit.
Pita da dire, tu connais.
Ah, chevalier, ranien lien, tigilo.
Il
demande s'il est gravement touché.
Dites-lui qu'un éclat a traversé le sternocléium mastoïdien et est allé se loger dans le sphénoïde, à la hauteur du hiatus de Fallope.
Ah. Et pour qui travaille-t-il?
Allez, d'accord, on ne prend pas des
paroles. Radinza.
A votre ayus. Radinza. Il n'a pas fini sa phrase. Il a dit je travaille pour et il a fait.
De Broca et Belmondo, ils ont fait 6 films ensemble. Donc d'abord, on a Cartouche, L'Homme de Rio, Tribulation d'un Chinois en Chine, et ensuite vient Le Magnifique. Et ensuite, on aura L'Incorrigible, et ensuite, beaucoup plus tard, en 2000, Amazon. Et quand on prend les performances au box-office des films de Philippe de Broca, on s'aperçoit que tous les films qu'il a fait avec Belmondo ont été un succès. Donc on retrouve L'Homme de Rio, bien entendu, qui est son plus gros succès, quasiment 5 millions d'entrées. Cartouche, 3,5 millions d'entrées, un peu plus. Et Le Magnifique, en troisième position, 2,8 millions d'entrées, presque 3 millions. Les Tribulations des Chinois en Chine, 2,7 millions. L'Incorrigible, 2,6 millions. On s'aperçoit qu'en fait, la collaboration des deux fonctionne très très bien. Et Le Magnifique, donc, a un statut particulier dans la carrière de De Broca, puisque c'est le troisième meilleur résultat. Et c'est le résultat quasiment le plus tardif, puisque après L'Incorrigible, c'est 75, puis après Le Bossu, qui fait beaucoup plus tard, c'est 97, mais ça n'a plus rien à voir, c'est plus du tout... d'abord, c'est pas une collaboration avec Belmondo, et ensuite, c'est pas le même genre de film du tout. Donc forcément, un film qui a une importance pour la filmographie de Philippe De Broca. Et puis, bien entendu, et c'est là probablement la chose la plus importante, c'est un film qui a une importance très particulière pour Jean-Paul Belmondo, puisqu'il s'agit, à mon sens en tout cas, du film où Belmondo opère une sorte de virage. C'est-à-dire qu'après ce film-là, il va commencer de plus en plus, jusqu'à ce que ce soit quasiment plus que ça, jusqu'à ce que je considère comme étant la fin de sa carrière, même s'il est encore vivant et qu'il fait encore des films, mais on va dire le gros de sa carrière, la période où il devient une énorme star, Belmondo ne jouera plus de personnage. Belmondo jouera Belmondo. Dans Peur sur la ville, c'est Belmondo. Dans L'Incorrigible, c'est Belmondo. C'est toujours cette espèce de personnage un peu à la limite de la farce, du théâtre de boulevard, qui est là et qui n'est plus réellement un personnage de film, mais qui est vraiment Bébel, qui est Belmondo. Et je trouve que c'est Le Magnifique qui, pour moi, opère ce premier changement, ou en tout cas l'amène à découvrir ce personnage-là. Puisque, comme je le disais, le personnage de Bob Sinclair, qui donnera son nom d'ailleurs au DJ, est une sorte de Belmondo qui aurait monté le volume à fond. C'est L'Homme de Rio, mais c'est L'Homme de Rio puissance 10 000, quoi, où il y a un côté absurde, complètement débile, qui est extraordinaire. Une dernière petite anecdote sur le film. Le scénario était censé être écrit par Francis Weber et Philippe de Broca lui-même. Les deux n'étaient pas du tout d'accord sur la place qu'il fallait accorder à Jacqueline Bisset, que je n'ai pas mentionné jusqu'ici, mais qui est fantastique dans le film. Francis Weber ne voulait pas qu'elle ait un rôle important, et Philippe de Broca, lui, voulait absolument qu'elle ait un rôle important. En fonction de qui raconte l'histoire, l'un raconte qu'il a été viré, l'autre raconte qu'il est parti. Une chose est sûre, c'est que Francis Weber a quitté le projet. Et le script a été terminé par Philippe de Broca, qui a fait appel à Jean-Paul Rappeneau pour venir faire le script Doctor, et que tous les deux ont décidé finalement de donner un rôle plus important à Jacqueline Bisset. Au final, aucun scénariste n'est mentionné au générique de début, ce qui est très bizarre et qui n'arrive quasiment jamais. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi. Le Magnifique est disponible sur Netflix. Cette même année 73 sont sortis Les Aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry, Vivre et laisser mourir de Guy Hamilton et L'Aventure du Poséidon de Ronald Nim. Dans ses yeux, de Juan José Campanella, durée 2h09. Benjamin Esposito, un greffier du procureur à la retraite, décide d'écrire un bouquin dans lequel il sera question d'une affaire de viol et de meurtre non résolu. Pour l'aider à sa relecture, il recontacte sa supérieure, Irene Menéndez Hastings, dont il a toujours été amoureux et qu'il a aidé, il y a 25 ans, à résoudre cette enquête avant qu'elle ne soit clôturée. Ensemble, Irene et Benjamin vont avoir l'occasion de découvrir ce qui est réellement arrivé en 1975 et peut-être de redécouvrir l'amour qu'ils se portent. Qu'est-ce que c'est qu'un bon film ? Qu'est-ce qu'on attend d'un film ? Quand on s'est tous mis d'accord pour regarder tel film sur telle plateforme, ou bien qu'on s'est tous mis d'accord pour aller voir tel film au cinéma, que ça y est, on est assis, il fait noir dans la salle, l'écran s'allume, le film commence, les logos arrivent, on se regarde un petit peu, ça y est, ça commence. Et qu'est-ce qu'on attend d'un film ? Moi, la première chose que j'attends d'un film, c'est que l'histoire soit bonne. Et dans le cas de Dans ses yeux, aucun problème là-dessus. L'histoire est fantastique, elle nous tient en haleine jusqu'au bout. C'est pas vraiment un thriller, c'est un mélange de choses. Et ce mélange-là réussit parfaitement, fait mouche à chaque fois. L'histoire est géniale. On attend d'être happé dans un univers, on attend d'être transporté, de vivre une expérience qu'on n'aurait pas vécue dans nos vies de tous les jours. On attend de vivre quelque chose d'unique, de partager une expérience. Et donc, d'avoir une expérience qui soit empathique et que les acteurs nous transportent à l'intérieur de l'univers qui a été créé par les scénaristes. Eh bien ça aussi, ça fait mouche, parce que les deux acteurs principaux, Ricardo Darín en tête, qui est un acteur argentin qui est fantastique déjà dans Nueve Reinas ou dans Relatos Salvajes, est incroyable là aussi, est vraiment réussi son coup, il transporte le film de bout en bout et on est avec lui à chaque instant.
Cuando yo le hablo, usted escucha mi voz, ¿cierto, Espósito?
Sí, doctor.
Entonces tengo que suponer que si yo le digo algo y usted hace exactamente lo contrario, no es que no me oyó, sino que usted se caga en la orden que yo le di, ¿verdad, Espósito?
On attend aussi que la photo soit belle, bien sûr, et que la réalisation, bien entendu, accompagne l'histoire. Je n'ai pas envie de voir un film où une scène d'action serait filmée de la même manière qu'une scène d'amour, et inversement. Et bien là encore, Dans ses yeux tient son pari, et transporte le spectateur en lui faisant vivre certaines scènes d'une certaine manière et d'autres scènes d'une autre manière. Plan séquence, chant contre chant, tout est là, toute la grammaire du cinéma est là, et elle est utilisée à bon escient, intelligemment à chaque fois. Et en plus de ça, elle est accompagnée d'une photo qui est magnifique. Donc, ce film est une réussite théorique parfaite. C'est-à-dire que tout ce qui doit être réuni pour faire théoriquement un bon film est réuni. Mais c'est aussi une grande réussite pratique. Le film fait mouche, pas seulement parce qu'il est bien réalisé, bien photographié, parce que les acteurs sont impeccables et l'histoire bien écrite. Tout ça, c'est très bien sur le papier. Mais c'est dans son exécution et dans son ressenti et de par son sujet que le film vraiment nous touche. Il nous touche parce qu'il s'agit de notre humanité. Il s'agit de savoir ce que nous sommes, ce pourquoi nous nous battons, les valeurs que l'on veut défendre. Il y a tout d'abord cette enquête qui n'est pas résolue depuis plus de 25 ans et qui est vraiment profondément ancré en Benjamin, le personnage principal de l'histoire, et qui va réussir à emporter avec lui son ancienne supérieure, et à eux deux vont finalement s'apercevoir que les choses n'étaient pas résolues, qu'ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Et puis, il y a évidemment cette histoire d'amour qui, elle non plus, n'est pas résolue. En définitive, c'est un film qui parle de résolution, qui parle de tourner la page, de faire son deuil de certaines choses. En gros, fermer les chapitres qui sont restés ouverts, regarder qui l'on a été, comprendre qui l'on est et améliorer qui l'on peut être demain. C'est un film sur notre rapport au temps et donc sur notre humanité la plus profonde. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, Soledad Villamil et Ricardo Darín, ce dernier étant le personnage principal du film, portent le film de bout en bout, particulièrement donc Ricardo Darín. Non seulement les acteurs sont bons, mais en plus les personnages sont extrêmement bien écrits. On les accompagne et on a envie d'être à côté d'eux, on a envie de les comprendre. Il y a des scènes d'une grande tension et puis des scènes qui sont beaucoup plus mélo, qui sont beaucoup plus calmes, douces. Le mélange de tout ça fait de Dans ses yeux un film qui, à mon avis, est un des grands, grands films de l'année 2009 et de la sélection que je vous fais ce mois-ci. Le film est disponible sur Mubi.com. Mubi.com, c'est une plateforme où les films disparaissent au bout de 30 jours. Il y a aussi une sélection permanente. Je ne sais pas si Dans ses yeux fait partie de la sélection permanente ou bien s'il disparaîtra dans moins de 30 jours. Dans tous les cas, le film m'a tellement touché que j'ai choisi de le décaler et de le passer à ce mois-ci dans le cas où il disparaîtrait. Ne le ratez pas. Cette même année 2009 était sorti Avatar de James Cameron, Gran Torino de et avec Clint Eastwood, et OSS 117 Rio ne répond plus de Michel Hazanavicius. Les chaussons rouges de Michael Powell et Emmerich Pressburger, durée 1h48. Victoria Page, une jeune aristocrate volontaire et un peu naïve, rêve de devenir danseuse étoile. Julian Craster, un jeune étudiant démuni mais doué, rêve de devenir compositeur. Leur rencontre avec Boris Lermontov, un chorégraphe et directeur de ballet imbuvable mais très reconnu, est décisive dans le lancement de leur carrière. Hélas, Lermontov se montre très vite beaucoup plus avide de succès qu'il n'y paraît et exige de ses recrues l'impossible. Tous ces enjeux se retrouvent dans le ballet Les Chaussons Rouges que Julian compose et Victoria danse.
You see, Mr. Krauser, these things mostly happen unintentionally.
Well, I know that's why.
That's why it is worth remembering that it is much more disheartening to have to steal than to be stolen from. Good morning.
Quand on pense au cinéma britannique, on pense bien entendu d'abord et avant tout à Alfred Hitchcock. C'est le plus reconnu d'entre tous et c'est celui qui a marqué de son empreinte non seulement le cinéma britannique mais aussi le cinéma mondial. Il est donc naturel que ce soit celui auquel on pense en premier lieu. Pourtant, quand on écoute des interviews de cinéastes, quand on se renseigne un petit peu, il est un cinéaste, britannique donc, que tous les cinéastes citent comme un exemple. Ce cinéaste, c'est Michael Powell. Et Michael Powell est surtout connu pour sa collaboration avec Emmerich Pressburger, scénariste. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois en 1938, via le producteur Alexandre Korda. Alexandre Korda avait invité Emmerich Pressburger à réécrire certaines scènes sur un film qui est anecdotique. C'est le coup de foudre créatif entre les deux hommes, qui décident de collaborer sur leur prochain film, un film de commande pour la propagande anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle 49e parallèle. Et cette même collaboration sera reportée sur un autre film, Un de nos avions n'est pas rentré, qui est aussi un film de propagande réclamé par le ministère de l'Information pendant la Seconde Guerre mondiale. Après quoi, les deux hommes créeront leur société de production The Archers, dont la cible, avec une flèche qui vient se planter en son milieu, est présente sur tous les films de leur collaboration. Cette société de production leur permet d'avoir un contrôle absolu sur leur création. D'ailleurs, tous les films commenceront par « écrit, produit et dirigé par Michael Powell et Emmerich Pressburger », comme si les deux hommes avaient tout fait, alors qu'il est notoire que c'est Emmerich Pressburger qui écrit plutôt et Michael Powell qui réalise définitivement. De cette collaboration naîtront une quinzaine de films, quasiment tous des chefs-d'œuvre, Colonel Blimp, A Canterbury Tale, Je sais où je vais. Mais ce qui nous intéresse, c'est la trilogie qui représente leur phase impériale. Si vous n'êtes pas familier avec ce concept, je vous encourage à rechercher sur Google. Ces films, ce sont Une question de vie ou de mort, puis Le Narcisse Noir, dont je vous ai déjà parlé sur mon compte Instagram. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à le faire, @charledy. Et donc, Les Chaussons Rouges. Viendront bien plus tard La Renarde, Les Contes d'Hoffmann, etc., etc. C'est là qu'intervient un troisième homme, Jack Cardiff. Jack Cardiff, c'est un enfant de la balle, né de deux comédiens de musical, qui commence au cinéma en étant cadreur pour la London Film, qui est ni plus ni moins qu'une société de production anglaise. Alors qu'il fait son petit bonhomme de chemin, un jour, des créateurs d'une société appelée Technicolor débarquent dans les studios et demandent à rencontrer tous les cadreurs. Ils leur font en réalité passer un test pour savoir qui pourrait, parmi tous ces cadreurs, se former à la technique du Technicolor, qui est très particulière et qui est tout nouveau à l'époque. Et Jack Cardiff passe le test et le remporte haut la main. Il va donc se former à cette nouvelle technique une technique qui permet d'avoir des couleurs bien plus saturées, plus vives, et il va devenir professionnel de ça. Sur le film de Colonel Blimp, de Emmerich Pressburger donc, et Michael Powell, il est cadreur de la deuxième équipe. C'est lui qui fait tous les portraits de tous les animaux que le colonel Blimp a tués en safari. Et manifestement, il impressionne l'équipe, et particulièrement Michael Powell, qui décide de l'embaucher dans l'équipe de photographie sur une question de vie ou de mort. Après ça, il travaillera avec eux sur donc Le Narcisse Noir, et aussi, bien évidemment, le film qui nous intéresse actuellement, Les Chaussons Rouges. On ne peut pas parler des Chaussons Rouges donc sans parler de Jack Cardiff. C'est un film autant de Emmerich Pressburger et Michael Powell que de Jack Cardiff, à mon sens, parce que les couleurs sont tellement spéciales et magnifiques que vraiment, ce film sans Jack Cardiff n'existerait pas tel qu'il est. Si on rajoute à ça des prestations fantastiques de la part des acteurs et un morceau de bravoure de quasiment 20 minutes au milieu du film, un morceau de ballet, justement le ballet des Chaussons Rouges, franchement, je vois pas bien ce qui pourrait vous convaincre de plus si je ne vous ai pas déjà convaincu de regarder ce film. Il se trouve qu'il est disponible, je crois, dans sa version restaurée, celle que je vous conseille en tout cas, sur la Cinéthèque, à la location. Et cette même année 1948 était sorti Bambi, de David Hunt, James Algar et Samuel Armstrong, Les Enchaînés de Alfred Hitchcock, justement, et Monsieur Verdoux de Charlie Chaplin. Voilà, c'est fini pour ce premier épisode de Cinécure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à le noter sur Apple Podcasts, c'est important pour le référencement. Quant à moi, je suis disponible sur Instagram, @charledy. Je serai heureux de lire vos retours sur l'épisode que vous venez d'écouter, ou bien de lire vos recommandations ciné, moi-même de vous en donner d'autres si cela vous intéresse. Et dans tous les cas, on se retrouve dans un mois pour un deuxième épisode. À très bientôt !